Chapitre 14. Mélanie, émue du départ de Jeanne, consentit, après l'excessive jérémiade, à se taire, et ne songea bientôt plus à la petite que lorsqu'arrivait le moment de solder l'achat d'un bonnet ou la confection d'une robe. Furieux de ces dépenses, jadis évitées grâce à Jeanne, le cher Jordville maudissait de son côté, au poste, les Anglais et Londres. Sur ces entrefaites, le beau temps revint, et André, installé une après-midi sur sa terrasse, contempla l'éternel spectacle des mêmes employés du ministère, assis dans la maison d'en face, devant les mêmes casiers de bois noir, remuant les mêmes paperasses sur le même fond de carton vert. Ni l'aspect des bureaux, ni l'aspect de la rue n'avaient changé. C'était, dans le même décor d'un coin de province, le même figurant boiteux surveillant la place des fiacres, les mêmes garçons portant des œufs sur le plat et des magasins grands, le même monde suppliant préparant leurs larmes, disparaissant par la porte des bureaux, ne les quittant exténués qu'après les fieurs. Tout au plus, le tiédeur du ciel avait-elle fait grouiller en plus grand nombre que l'année dernière, au moment avancé de la saison où André avait emménagé, les palefreniers et laquais échappés de tous les hôtels du voisinage. Il y en avait, tassés comme des mouches dans un coin, pipant et salivant, conférant avec le portier d'une maison en train d'aiguiser au Tripoli les tueurs des boutons de porte, et d'autres arrivaient, dandinant leurs fesses à l'étroit dans ces culottes qui ferment la poche aux genoux et qui bouffent et tire-bouchonnent sur des galoches, rejoints bientôt par des garçons d'écurie en veste de travail, les manches retroussées, la chemise de flanelle rétrécie au cou par des lavages, les faces soigneusement plaquées sur les tempes, la toque à deux rubans écrasés sur la nuque, et tous gesticulaient, ouvrant la mâchoire, se secouant les poings. De sa fenêtre, André suivait le mouvement de leurs bouches rasées, devinait des invites à boire, aussitôt acceptés, des cancans répercutés, des offices de remise, des bonjours lancés à des chiens de cellier assis sur leurs nefles, dressant leurs oreilles affûtées en sifflets, secouant leurs poils gris, hérissés sur le collier écarlate à clous de cuivre. Cet épanouissement de valetaille et de chien au soleil le réjouissait. Il perdait des heures à examiner le défilé de ces gens dans la rue, la procession des messieurs et des dames s'engouffrant sous le porche du ministère. Tout à coup, son regard, qui s'éparpillait, se concentra sur un homme pointant au loin. « Mais c'est la tournure de Cyprien !» se dit-il. Il reconnut bientôt, en effet, la figure du peintre qui approchait rapidement, manœuvrant par seconde les milices charnières de ses longues jambes. La figure d'André s'éclaira. Leur relation était presque interrompue depuis des mois. « Te voilà donc, brigand !» fit-il, quand le peintre fut monté. Et ils se serrèrent la main, parlant tous les deux à la fois, se dévisageant en riant d'aise. « Mon cher, vois-tu, dit Cyprien, c'est bien simple. Je ne suis pas venu parce que tu étais en possession de femmes, et que les femmes, eux, tu le sais comme moi, ça balait tout. Compte les amis que je recevais jadis dans mon atelier, et ceux que les maîtresses ont éloignés, et la balance s'établira vite. Il ne me reste plus que toi, et je ne tiens pas à te perdre. Mais je suis toujours seul maintenant. Tu peux me visiter sans crainte, répondit André. Jeanne est partie. Et il expliqua sa rupture, ajoutant avec tristesse que ses prévisions s'étaient réalisées, qui n'avait plus reçu de nouvelles de Jeanne depuis qu'elle était débarquée en Angleterre. « Et toi » demanda-t-il, secouant la tête comme pour chasser un souvenir importun. Que fais-tu? Que deviens-tu? Moi, murmura le peintre avec un peu d'hésitation. Eh bien, dame, je deviens. Que je vis en concubinage. André ouvrit de grands yeux, et il ne put s'empêcher de rire. Mon Dieu, oui, dit Cyprien, qui comprit l'ironie de ce rire. C'est comme cela. Eh bien, après, ça te semble drôle, parce que tu m'as souvent entendu blaguer les gens qui se collaient. Ça ne prouve qu'une chose, mon cher. C'est que devant les femmes, il n'y a pas de gens malins. Il n'y a pas de gens forts. Ceux qui déblatèrent le plus violemment contre elles sont ceux qui ont la plus peur et qui sont le plus sûrs d'être échaudés. Et c'est si vrai qu'on peut, sans crainte de se tromper, émettre cet axiome. Quand on est là des femmes et qu'on commence à crier de bonne foi qu'on les déteste, on peut graisser ses bottes et se faire donner le viatique. Le mariage et le concubinage sont là. Les désastres sont proches. Maintenant, je dois ajouter pourtant que Mélie, oui, c'est le nom de ma femme, est une brave fille, qu'elle a de sérieuses qualités, qu'elle remplit enfin toutes les conditions d'un dernier idéal qui m'était poussé. Trouver une dame mûre, calme, dévouée, sans besoins amoureux, sans coquetterie et sans pose, une vache puissante et pacifique, en un mot. Eh bien, l'excellente Mélie est tout cela. Ou, je ne sais plus, moi, elle ne l'est peut-être pas du tout, car enfin, comme tous les gens qui ont des maîtresses, leur découvrent immédiatement un tas de qualités qu'elles n'ont pas, je suis peut-être devenu aussi nigo qu'eux. Et je me chauffe sans doute le job, basta. Ça ne fait rien, le résultat est toujours le même, conclut-il gaiement. Dis donc, mon vieux, je t'attendrai. Nous dînons ce soir ensemble, hein, oh, car sabristi, après si longtemps, c'est bien le moins que nous ne nous quittions pas. Je t'emmène, j'ai justement accordé congé à Mélanie, et j'allais mélancoliquement dîner seul au restaurant. Quelle chance que tu sois arrivé! Tiens, à propos, sais-tu pourquoi Mélanie m'a demandé Campos? Non? Eh bien, c'est pour assister à l'enterrement de mon oncle. De ton oncle? Fit Cyprien interdit. Voyons, tu ne te rappelles pas le jour où nous sommes allés à la recherche de la bonne chez une blanchisseuse de la rue des Quatre Vents, d'avoir vu sur une chaise percer un vieillard qui râlotait? Tiens, parbleu, cria le peintre. Si je me le rappelle, oh, je crois bien. Il y avait même dans la boutique une harpette dont l'extraordinaire dégaine m'a longtemps hanté. Alors comme ça, ce respectable vieillard a rendu l'âme. Oui. Mélanie m'a raconté qu'il s'était penché tout d'un coup sur la chaise et qu'il grattait le plancher avec sa main, tandis qu'il tirait en même temps la langue. On a d'abord cru qu'il s'amusait et on lui en a fichu une tape pour le remettre au droit. Mais il a dit « Je sais pas, moi, je sais pas. » Puis il est tombé la tête sur l'estomac en avant. Ça a été tout. « Oh, il fut largement exploité, il pua, » fit Cyprien. L'on pourrait graver ces mots comme épitaphe sur la tombe de cet oncle. Mais dis donc, pour en venir à des sujets plus gais, je préférerais, si cela ne te gênait pas, t'emmener dîner à la maison. Tu verras la margoulette qu'a ma femme, ce sera toujours ça. Ah bien, au point de vue de la logique, tu laisses à désirer, toi. Tu ne venais pas me voir parce que je possédais une maîtresse, et maintenant que tu en as une, toi, tu veux m'amener chez elle. Tu as donc envie que nous nous fâchions, puisqu'à t'entendre, et tu n'as pas tout à fait tort, les femmes, ça balaye tout. Oui, oui, je sais bien, mais Mélie est exceptionnelle. Exceptionnellement maternelle. Oh, tu seras bien reçue. Et puis, Il faudrait la prévenir que je ne rentre pas. Ce serait un tas d'histoires. Alors, c'est entendu, tu viens. Tiens, à propos, j'ai une visite. Devine de qui? Oh, comment veux-tu que je devine? De Desablots. Ah! Eh bien, qu'est-ce qu'il veut, celui-là? Ben, je ne sais pas. Il est venu pour un rentoilage de tableau. Il m'a appris que ta femme était malade, qu'elle aurait besoin de bien de bon air. Et que je refusais l'autorisation d'acheter une maison à Viroflay, n'est-ce pas? Mais je crois bien que Desablots m'a parlé de cela, dit Cyprien en paraissant chercher dans ses souvenirs. Je lui ai répondu d'ailleurs que j'avais assez de m'occuper de mes propres affaires sans me mêler encore à celles des autres. Sais-tu ce que c'est que Desablots? Fit subitement André. Un imbécile, oui, mais d'abord, mais ensuite. Cyprien eut un geste vague. Eh bien, c'est une vieille canaille. La figure du peintre ne témoigna aucun étonnement. Comment, reprit André, voilà un monsieur qui me propose d'acheter une maison à Viroflay sous le prétexte que Berthe souffre. En Normandie, en Auvergne, en Provence, à Menton, à Nice, je comprendrai encore, mais à Viroflay. Il appelle cela du bonheur, lui. Non, c'est simple comme bonjour. Le Desablots a grande envie de posséder, sans débourser désormais des frais de location, une campagne près de Paris, près de son bureau. Oh, je ne suis pas sa dupe. Aussi j'ai répondu au notaire ceci. D'abord, je ne vois pas l'utilité d'acheter une maison lorsqu'on peut en louer une. Puis quand un médecin me désignera dans un pays quelconque un village dont le séjour rétablira la santé de Berthe, eh bien, j'accorderai toutes les autres autorisations que l'on voudra. Jusque-là, rien, je refuse. Desablots ne m'avait pas rapporté ta réponse au notaire, dit Cyprien. Tu as raison, du reste. Les baumes de Viroflay sont contestables. Je n'avais pas songé à cela. Tiens, tiens, tiens. Mais il est plus retors que je croyais, ce brave Desablots. Dis donc maintenant, il est près de 6 heures. Si tu enfilais ton paletot. Alors, décidément, nous dînons chez toi. Oui, seulement décampons tout de suite. Comme Mélie ne s'attend pas à ton arrivée, il faut que nous lui donnions au moins le temps d'apprêter un frigo plus large. D'ailleurs, je chercherai un renfort de victuailles en route. Ça évitera aussi à la vieille qu'il est pas mal poussive la peine de redescendre. Mais tu ferais bien de la prévenir que nous mangerons dehors, reprit André. Elle va avoir un aria du diable. Laisse donc, laisse donc. Je vais te citer des phrases toutes faites pour te convaincre. Quand il y en a pour deux, il y en a pour trois. Tu dîneras à la fortune du pot. Tu sais, c'est sans cérémonie, etc., etc. Si tu produis une seule objection, je t'en dévide dans ce coup pendant 1 heure. Ils se mirent à rire tous les deux et ils partirent.
Voilà, dit Cyprien, continuant une conversation commencée dans l'escalier. Je me suis logé près de toi parce qu'il faut, autant que possible, quand on concubine, changer de quartier. Et puis tu verras, la maison où je loge n'est pas luxueuse, mais les pièces sont bien situées au sud. Tu n'as pas perdu au change, car il est très amusant ce quartier-ci, répondit André. Et il narra au peintre les réflexions qui lui étaient venues un matin de promenade. J'ai piqué juste, je pense, conclut-il. Ces rues dégagent une odeur de pasteur gallican et de goum. Je crois fiche-toi bien, s'exclama le peintre en humant l'air. T'y voilà. Tu commences, Dieu merci, à comprendre le moderne. Oui, ce quartier est superbe, comme tous les autres du reste. Puisque chacun dans cet adorable Paris contient une saveur qui lui est propre. Je suis satisfait de voir que je n'ai pas prêché dans le désert et que tu crois à mes théories maintenant. Tiens, Regarde-moi cela, dit-il tout à coup en arrêtant son ami devant une devanture de harnacheurs pleine de grappes, d'étriers, de gourmettes, de mors, de rangées d'éperons, à cheval sur un coussin de bois, dressant leurs tiges, faisant étinceler leurs mignonnes étoiles d'acier et de cuivre. Hein, quel coup d'œil! Murmura-t-il, ravi par ce métal qui jetait ses froides clartés sur le noît mat des œillères, sur le havan des pots de sel, sur le thé clair des brides. Et il se posa le nez sur les vitres, caressant des yeux les rangées de cravaches à pommes, couchées en une haie renversée sur deux tringles, examinant au loin, dans l'arrière-boutique, le réjouissant bidet empaillé, cousu dans une peau couleur de café au lait. Ce serait régalant à peindre, soupira-t-il, et tout en marchant, il poursuivit. Est-ce que tu n'estimes pas, comme moi, qu'un peintre de nature morte, qui aurait du talent, devrait choisir pour sujet, au lieu de ces éternelles fleurs, de ces éternelles huîtres, des monstres de commerçants, celle de l'épicier qui est là, par exemple, avec ses bouteilles, ses gerbes de macaroni, ses paquets colorés, ses pots, ou bien encore ses intérieurs de carrosserie magnifiques, remplis de voitures ou caisses sombres, aux moyeux chatoyants comme des pièces neuves, aux glaces levées reflétant les couleurs environnantes, ou baissées laissant entrevoir des dedans capitonnés de soie nacara, citron, bleu de dianelle. J'ai souvent pensé à cela, vois-tu, depuis que je bagnaude sur ces trottoirs. Seulement, allez donc rendre avec un crayon, avec un pinceau, la note spéciale d'un quartier. C'est pas l'affaire des peintres. C'est celle des hommes de lettres, cela. Oh, il est vrai que vous êtes tous les mêmes dans votre parti. Vous cherchez, comme dans la nôtre, midi à 14 heures. Assis-toi qui habites ce quartier de père en fils. Tu t'empresses de mettre en scène dans tes livres ce que tu ne connais pas. Car enfin, il n'y a pas à dire. Jamais toi, les autres, vous n'avez connu les rues que vous décrivez. Vous y allez deux fois, vous prenez des notes et vous vous imaginez que cela suffit. Comme si pour dépeindre la vie d'un endroit, il ne fallait pas y avoir demeuré et roulé de toutes parts. Oh oui, parbleu, je sais bien, je prévois la réponse. Vous avez des sommiers et des lits que vous ne pouvez déplacer tous les 8 jours. Eh bien, un homme de lettres qui décrit Paris devrait vivre en garni, suivant les besoins de son œuvre, tantôt ici et tantôt là. Et tant pis, après tout, on ne fait pas de l'art quand on veut ses aises. André eut une moue. Ben, oblige pendant que tu y es, dit-il, les écrivains à voyager comme des saltimbanques dans une maringotte. Mais tout cela, ce sont des mots, s'exclama le peintre qui s'échauffait. Que diable, il faut bien 6 mois pour bâtir une œuvre, et l'on peut rester honnêtement dans un logis pendant 2 termes. Enfin, du reste, peu importe. Ah, mais tiens, puisque nous en sommes sur ce quartier, connais-tu au moins la cité Berry ? La cité Berryer ? Oui, l'endroit où se tient, rue Royale, les mardis et vendredis, le marché. Non, tu ne la connais pas, je le vois. Eh bien, mon cher, je me demande réellement à quoi cela te sert d'avoir logé pendant si longtemps dans ces rues. Je me demande aussi à quoi cela te sert d'avoir chez toi un tas de dictionnaires, des Littrés, des Loredans, l'Archet, des Souvirons, tous, excepté le Bottin, le seul qui fournisse la nuance des quartiers et des rues, en révélant pour chaque maison le métier de ceux qui l'habitent, le seul en somme qui contienne des renseignements utiles pour les hommes de lettres. Ah, il est trop tard, dit-il tout à coup, en tirant sa montre. Sans cela, je t'aurais emmené jusqu'au marché. « Ce sera pour un autre jour, » lança André d'un ton dégagé. « Après tout, qu'a-t-il donc de si particulier ton marché ?»« Ce qu'il a, mon cher, mais tout ce que je te dépeindrai n'avancerait à rien. Vas-y et tu m'en donneras des nouvelles. »« Tiens, pour t'en figurer une faible esquisse, imagine-toi une longue cour cloîtrée par de hauts murs, du noir de fumée partout. » Des sillons de pluie et des lézardes zigzagant sur toutes les maisons du haut en bas. Des fenêtres garnies de linge, séchant sur des cordes et soulevées par des têtes dépeignées de femmes qui vide à tour de bras à chaque étage de l'eau savonneuse dans les éviers. Sur les pavés, des tables munies à chaque coin de manche, à balais supportant des plafonds de vieilles bâches rangées en deux bandes, si rapprochées qu'un couple de personnes peut à peine passer le front dans les trois sentiers, ensemble. Avec cela, un déballage étonnant de poissons et de viandes, de chevalières et de chênes en doublé, à large coulant pour les maquignons et les souteneurs. Des tas d'échaudés, des plumeaux et des lavettes, des résis chenillés, des jarretières teintes de vermillon dur et de vert cru. Ah, des galoches, des alaises et des busques, des faux cheveux et des cannes. C'est là vaguement le décor, les accessoires. Mais dans tout cela, maintenant, un fourmillement énorme de monde. Deux filles, deux femmes avançant en sens inverse, refoulant tout ce qui vient à leur rencontre. Des ribambelles de poitrine suivant à la queue-leu-leu des dos, des masses lâcheteuses, glissant avec leurs marmailles mal mouchées sur les épluchures, cognant du visage sur les chignons en marge devant elles, se grimpant sur les épaules les unes des autres, appelées par les marchands, tirées par ceux-ci, rattrapées par ceux-là, discutant et râlant comme des chipis sur des lapins écartelés et des volailles mortes, puis repartant, emportées par la foule, raccrochées encore par de nouveaux négociants dont elles ébranlent dans la bousculade les éventaires et les tables avec la poussée saccadée de leur ventre. Ajoute encore un brouhaha furieux, des gueulements rauques auxquels répondent des crécelles aiguës de femmes, puis de tous côtés, sous le vert de gris des bâches, des envolées bleues et blanches de blouse, des coups de rouge frappés par des ailes de laine, à manches des taches de lilas plaquées par les blouses à petites raies des garçons bouchés. Enfin des blancs de bonnets et des noirs de casquettes montant et descendant sans arrêt dans le flux ininterrompu des têtes. Bref, toute une foire de banlieue serrée en plein Paris, dans la cour d'une maison pauvre. Tu le vois, tes oreilles et tes yeux auront leur compte et ton nez l'aura aussi, car il y a trois zones d'honneur différentes à franchir. En entrant par la rue Royale, c'est une acre humée de copeaux qu'on brûle et un rance parfum de beignets qu'on frit. Au milieu de la cour, c'est la marée qui domine, salant des tiennes et molles bouffées échappées des caves. Et à l'autre bout, près de la rue Boissy-d'Anglas, toutes ces senteurs disparaissent, et l'on ne boit plus alors que la laine empestée des plombs. Voilà. Eh bien, à Ménilmontant ou à Montparnasse, cette foire ne serait ni bizarre ni drôle. Mais il faut avouer qu'ici, c'est tout de même curieux de trouver dans ce quartier riche, dans cette rue royale, à deux pas de la Madeleine, au milieu de ces magasins de gala, de ces restaurants et de ces cafés, chamarrés d'or et bourrés de glace, une vraie cour des miracles, soigneusement cachée par une porte. Ce trou ignoble, abrité derrière des façades superbes, vous suggère l'idée d'une plaie nécessaire suintant sur un corps bien mis, d'un vésican, d'une sorte de séton, dissimulé sous l'opulence du linge, pour pomper l'humeur et garder le teint frais. André approuva d'un hochement de tête, mais il ne répondit pas. Il songeait maintenant au dîner qu'il attendait. La perspective de connaître Mélie ne l'amusait guère. Il eût préféré dîner au restaurant, seul à seul avec le peintre. « Il n'y a pas d'excuse à imaginer, » se dit-il, voyant son ami entrer chez un rôtisseur et rapporter un poulet dans du papier. Et il marcha silencieusement, regardant le palais de l'Élysée qu'il rasait et les agents de la sûreté qui circulent sans trêve autour et qui ont tous la même allure et la même face, des redingotes militairement boutonnées, des pantalons noirs descendant sur des bottes à clous, et dans des teints enflammés, des moustaches de palissandre. « Patience, nous y voici !» Et Cyprien précéda André dans l'escalier de la maison, grognant. « Oh, je suis sûr que j'ai payé le poulet trop cher et que ma femme va se péquer encore de moi. »« Cyprien !» cria Mélie quand ils furent entrés. « Quoi ?» clama le pâtre. « Arrive !» Mélie apparut, emplissant tout le cadre d'une porte avec sa taille. Elle esquissa poliment une révérence, apprit à André que Cyprien lui avait souvent parlé de leur amitié, tendit franchement la main et demanda la permission de retourner pour l'instant dans la cuisine. « Oh oui, fais-nous vite à dîner, nous bourrons de faim !» reprit le peintre, et lui offrit le poulet froid qu'elle examina longuement avec alarme. « Oh, j'ai bien peur qu'il soit dur, soupira-t-elle. Enfin, nous le verrons. Tiens, Cyprien, mets un couvert, le dîner est prêt. 2 minutes et je vous sers. Veux-tu voir le local en attendant la soupe ?» proposa le peintre. « Ici, comme tu vois, la salle à manger. Là, dit-il en appuyant sur la clenche d'une porte, la chambre à coucher. » André entra, débita les banalités usitées en pareil cas, ajouta par exemple que c'était crânement astiqué, et il avait raison, car les meubles de Cyprien, qui traînaient jadis l'air malheureux dans une pièce, avec leurs jambes éclopées et leur ventre glacé de crasse, miroitaient aujourd'hui, tout pimpant, d'aplomb sur leurs pattes, soigneusement calées par des bouchons. « À table !» brailla Mélie, tenant à deux mains une grande soupière. Ils s'assirent, Cyprien à gauche de Mélie et André à droite. Il eut un instant de silence. André déplia sa serviette et regarda, recueilli, la table. Près des filets luisants des couverts et des lames claires des couteaux, les assiettes mettaient sur le blanc de craie de la nappe des rondes à blanc plus jaune que surmontait le gris diaphane des verres traversés par des coulées de jour qui descendaient du calice dans le pied où elles s'arrêtaient, scintillant en un point vif. Des salières à double compartiment s'étalaient, opposant le blanc argenté du sel au rouge tripoli du poivre anglais, à gauche et à droite des plats, tandis que près des carafes, réverbérant dans leur eau le visage bizarrement allongé des convives, le flacon merdois d'une moutardier apparaissait, d'une couleur indécise, flottant entre le violet et le vert prune, noyé qu'il était par l'ombre tombée d'une bouteille dont le ventre réfléchissait à son tournant en un petit carré de lumière, le cadre croisillé de la fenêtre. « Matin, vous ne vous refusez rien, vous ?» dit André, ravi par l'ordonnance de la table, qu'il s'attendait à voir négligée ou sale. « Allons-y, les enfants !» cria le peintre, pour toute réponse, et il enfonça sa louche dans la soupière. « C'est fameux, ce bouillon au chou !» proféra André, le nez perdu dans la fumée qui montait de l'assiette.
« Oui, c'est vraiment pas beau. Faites manger, puis vaut mieux, comme on dit, aller chez le boulanger que chez le pharmacien !» fit Mélie en riant.
Et toute heureuse de ses compliments, elle reprit.
« Allons, monsieur André, encore une cuillerée ?»«
Ma foi, je veux bien, madame, cette soupe est exquise. » Et chacun s'enfourna 2 assiettes et s'essuya avec dévotion la bouche.
« Elle est laide, mais elle a l'air bonne enfant, la grosse mère, » pensa André,
lorsqu'elle apporta une platée de choux, de navets, de pommes de terre et de carottes, et sur une autre assiette, une poitrine de mouton grillé, du lard et un saucisson obèse avec de la ficelle à chaque bout. Cyprien coupa la viande, et alors tous sourirent, le nez chatouillé par l'odeur du chou et par le fumet du saucisson.
« Ah, mais je demande à souffler !» s'écria André, épouvanté par une nouvelle mode de chou que Mélie lui collait sur son assiette.
« Va donc, tu mangeras bien cela !» dit Cyprien.
« Alors, un verre de vin, monsieur André ?» continua Mélie. « Et à notre bonne santé à tous !»«
Ça va mieux !» murmura le peintre, la bouche pleine. « Je commençais à avoir l'estomac dans les talons. »
« Moi aussi, et j'ai joliment bien dîné, » haletait André, qui desserrait furtivement la boucle de sa culotte. « Allons, tant mieux !» conclut Mélie.
Ça vous donnera envie de revenir? » Ils attaquèrent à son tour le poulet froid, mais plus mollement.
« Vous ne pouvez pas bien tendre, » dit la grosse femme. « Les hommes savent pas acheter, mais avec une sauce à la moutarde et à l'huile, il passera tout de même. »
André approuva l'usage de cette sauce puissante. Il se sentait pour le moment un grand bien-être. La crainte d'être froidement reçue se dissipait. La bonne humeur de Mélie, qui faisait danser de temps en temps sa gorge dans un gros rire, le réjouissait. Il se trouvait comme chez lui, les jambes déployées tout droites sous la table, le dernier glissé jusqu'au rebord de la chaise, la tête presque appuyée sur le dossier, les mains dans les poches, il reposait, engourdi par la victoire, absorbé par le vin. Mélie apporta la lampe et la salle à manger avec ses quelques faïences pendues au mur, son petit poêle où un vieux pot de Delphes se dressait, le col allumé par les flammes d'une pivoine, sa nappe maintenant marbrée de rose par le reflet des verres à moitié vides, ses plats jetant à certains coins des paillettes de feu sous la lumière rabattue sur la table et sautant en rond au plafond, au-dessus du verre de lampe, sembla honnête et gaie, amicale et coquette à André, qui, regardant tour à tour Mélie et Cyprien, murmura « Vous avez eu de la chance de vous rencontrer. Vous êtes heureux, vous. » La grosse fille sourit. « C'est bien compliqué, dit-elle le tout, voyez-vous, monsieur André. C'est que les braves gens se rejoignent. Une fois que c'est arrivé, eh bien, dame, on se dit, le ménage est là, il n'y a pas, faut que chacun tire sur la bricole, et on s'attelle, et on pousse, et donc, ça marche. » Et puis un homme s'est perdu quand c'est seul. C'est sauf votre respect, si on potait de ses 10 doigts, c'est si inconsistant et si flemme. Ah, j'ai vu le linge de Cyprien, moi, avant que je l'habite ici. Les déchirures aillent fourrer le bras. Plus un bouton, plus un col, plus un poignet propre, c'était un vrai massacre. Sans compter qu'avec cela, il n'y a pas de sans-soin pareil à ce bandit-là, reprit-elle en tapant amicalement sur l'épaule du peintre. Il achèterait un paletot. Neuf, plutôt que d'envoyer son vieux à nettoyer chez un teinturier. Oh, si j'ai mis mon ordre à cela, j'économise sur ses dépenses aujourd'hui pour qu'il mange de la viande et boive tous les jours du vin à sa suffisance. « C'est exact, appuya Cyprien, le magasin est bien tenu maintenant. Tiens, ma biche, je crois qu'André ne veut plus de confiture, enlève-nous ça et octroie-nous le café et les liqueurs. » Mélie desservit et apporta les tasses. « Tu peux entrer maintenant, le dîner est achevé, » cria-t-elle à la cantonade en ouvrant une porte, et Alexandre fit son entrée en sautillant et en poussant sous ses moustaches droites des miaulements affables. « Ah, mais voilà un nouvel hôte que je ne te connaissais pas, » dit André, et il gratta consciencieusement le poil rouge du chat qui ronronna, bavandaise, les yeux presque fermés, la queue roide. « Ah, le fils Amélie, un jeune voyou qui n'a guère été poli quand ce bon des Amelots est venu. » Et Cyprien se mit à rire en narrant à André les inconvenances commises par Alexandre. « Voilà, t'as bien fait, mon vieux !» cria Mélie en versant le café. « Il aime pas les bêtes, ce monsieur-là, ça doit être un vilain homme !» Elle s'arrêta et resta la cafetière en l'air, pétrifiée, se rappelant que des Desablots était un parent d'André, pensant qu'elle venait de lâcher une balourdise. Mais celui-ci se prit à sourire. « Oh, il faut pas vous gêner, dit-il. Ce n'est certes pas moi qui le défendrai, le Desablots. » Ils étaient assis, le ventre un peu écarté de la table maintenant, la serviette posée en fouillon sur la nappe, et tandis que Mélie arrosait sa tasse avec du kirsch, ils fumaient tous les deux des cigares mouillés par le café qui filtrait, malgré leurs soins, dans leurs moustaches. Ne faites pas attention, monsieur André, murmura Amélie, un peu honteuse de siroter aussi copieusement devant le monde. Que voulez-vous, c'est là mon petit vice. Et elle se versa un nouveau verre. André l'assura que c'était un vice bien porté. Puis malgré lui, il revint à des abelots. C'est tout ce qu'il t'a raconté ? Oui, je te l'ai appris. Il s'est plaint que tu n'aies pas autorisé l'achat de la maison de Viroflay. Et il n'a pas ajouté autre chose sur Berthe ? Reprit André avec un peu d'hésitation. Non, rien, si ce n'est qu'elle est souffrante. D'ailleurs, ça se conçoit, la pauvre femme doit mourir d'ennui chez son oncle. À qui la faute ? Tant pis, c'est bien fait, elle n'avait qu'à se conduire proprement. C'est ma vengeance à moi de savoir qu'elle est chez les raseurs comme les désablots et qu'elle s'y embête. Mais ne dites donc pas des choses pareilles, monsieur André, s'écria Amélie. Vous n'êtes pas sans cœur, vous n'aimeriez pas voir souffrir le monde. Mon Dieu, je comprends bien que vous soyez colère après votre dame, mais si vous saviez, une jeune femme, c'est plus godiche qu'on ne croit. Elle a ses petites idées, sa petite tête, elle faute sans connaître parce qu'un gredin d'homme lui a frôlé la bouche. Au fond, elle est sans pas l'importance que vous croyez. Et puis dans tous les cas, c'est pas une raison, parce qu'une femme a commis une maladresse qui lui est retombée sur le nez pour qu'on lui cueille encore dessus, comme il y a des parents qui giflent leurs enfants lorsqu'ils se fichent par terre et qui se font du mal. « Oh, tu en parles bien à ton aise, toi !» murmura Cyprien. « Si tu étais à la place des gens qu'on trompe... »« Oh, j'y ai été à cette place-là, et toute ma vie... »« Moi, autrefois, je pleurais toutes les larmes de mon corps lorsque mon amant courait avec d'autres, mais au fond... » Ça ne m'empêchait pas d'avoir du sentiment pour lui, je l'aimais même encore plus, et pour rien au monde, j'aurais voulu le quitter. Il est certain que lorsqu'on est jeune, on se révolutionne les sangs pour des riens. Maintenant, bon, c'est fini, je m'en fais plus à croire. Pourvu que je crève pas trop de misère avec un homme et qu'il ne me batte pas, je m'estime heureuse. Il n'y a que cela de vrai dans la vie, en somme. « Tiens, mon vieux, » dit Cyprien à André, « verse-toi donc un petit verre de chartreuse. » Le carafon tourna autour de la table. « Je suis bien sûr, » continua Mélie en tendant son verre à André pour trinquer, « que dans l'histoire de votre ménage, le plus à plaindre, c'est votre dame. Quand on a eu ses petites habitudes, son chez-soi, c'est bien pénible aller d'être chez les autres. Non, les hommes ne sont pas justes. Ils veulent pas comprendre ce qu'il en est. Votre dame a buté, ça se peut, mais elle vous aime tout de même, car voyez-vous, il n'y a rien de tel que d'aller avec une nouvelle personne pour regretter aussitôt celle avec qui l'on va plus. Aussi vrai que je m'appelle Mélie, c'est comme ça. Ah, interrompit Cyprien en frappant d'un coup de poing la table, dire qu'il n'y aura pas un moment dans la vie où l'on pourra dire « zut aux femmes ». C'est foutant à la fin, quand on a encore plus besoin d'elle quand on est détraqué ou vieux que lorsqu'on est bien portant ou jeune. À ce point de vue, c'est réellement malheureux pour toi que Jeanne soit partie, dit-il à André, parce qu'enfin tu ne peux demeurer ainsi. À force de ne pas avoir de la jupe qui traîne chez toi, tu vas finir par devenir hypocondre. André ne répondit pas. Mélie et Cyprien lui récitaient tout haut ce qu'il pensait tout bas. Oui, depuis le départ de la petite surtout, la vie lui était insupportable. Les traverses, les perfidies, les hontes, tout cela n'était rien en présence de l'effroyable ennui qui l'accablait. Au fond, Mélie avait raison. Pour une curiosité insatisfaite, car il le connaissait, le tempérament glacé de sa femme, pour une tentative de pamoison dans les bras poilus d'une couleur différente des siens. Il avait raté sa vie, cassé son talent, broyé depuis des années du noir, et il pensa qu'il aurait décidément mieux valu, comme tant d'autres, avaler son cocuage et se taire. Que veux-tu que je fasse? Dit-il enfin en levant le nez qu'il tenait baissé sur son assiette. Ne puis-je pendant pas faire des avances à Berthe? Oh, quant à ça, non, dit-il, retrouvant dans son abandon d'énergie un reste de force. Ah non, 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 à aucun prix. Il y eut un instant de silence. Cyprien regarda fixement André. Et si Berthe reconnaissait ses torts et faisait les premières avances, dit-il. André devint pourpre, il balbutia. Oh, dans ce cas-là, dame, eh bien, oh, je ne sais pas. Sans doute, murmura Mélie, qui regarda Cyprien à son tour. Les hommes ont leur fierté, mais enfin, quand une femme convient qu'ils ont raison, il faudrait être réellement méchant pour ne pas lui pardonner. Moi, à la place de l'homme, je l'embrasserai de bon cœur et puis je serai bien gentil parce qu'il faut en somme que chacun y mette du sien. André eut un geste vague. Mélie se prit à rire et introduisit délicatement le bout de sa langue dans son petit verre pour en attraper la dernière goutte. « Quelle heure est-il avec tout cela ?» dit André qui quitta sa chaise. « 11h15, répondit Cyprien. « Diable, oh, il est temps d'aller se coucher. »« Eh bien, je te reconduis, » fit le peintre. André et Mélie se serrèrent affectueusement la main, puis quand les deux jeunes gens furent sortis, elle haussa les épaules et pensa, en débarrassant la table, oh, « Les hommes sont tous les mêmes. Ils veulent jamais avoir l'air de céder. Ben voilà, ben, ils seraient comme les autres. » C'est lui qui adresserait tout le premier des excuses à sa femme si elle venait demain chez lui pour lui en faire.